VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de la Haye, la CPI, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté ce mardi de crimes contre l'humanité par le tribunal qui a ordonné sa mise en liberté immédiate. La Cour pénale internationale a fait droit aux demandes d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé et prononcé leur libération. La mise en liberté des deux accusés est suspendue jusqu'à mercredi afin de laisser le temps à l'accusation de répondre à la décision historique rendue par la CPI. Les deux responsables ivoiriens étaient tous deux accusés de 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé coupables. L'acquittement des deux accusés est source de grande déception pour les victimes de la crise post-électorale ivoirienne, a déclaré Marie-Evelyne Petrus-Barry, directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Gabon maintenant, les 38 ministres du nouveau gouvernement gabonais sont au palais présidentiel de Libreville ce mardi pour prêter serment devant le président Ali Bongo Ondimba de retour au Gabon après 2 mois et demi d'absence suite à un accident vasculaire cérébral. Plus de détails sur le retour du chef de l'État au pays natal en provenance de Rabat au Maroc avec notre correspondant à Libreville Ismaël Obiang Nze.
Le retour du chef de l'État gabonais s'est fait sans tambour ni trompette, c'est-à-dire aussi discret que possible. Le retour au pays du numéro 1 gabonais dicté par les impératifs de l'article 15 de la Constitution adoptée en janvier 2018 qui stipule qu'avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, celui-ci doit prêter serment devant le chef de l'État. Cela sous-entend que le gouvernement, désormais dirigé par Julien Corbet-Calé, qui a remplacé Emmanuel Issozengondé, nommé médiateur par décret présidentiel, ne devrait rendre compte qu'au seul président de la République qui détient le mandat du peuple. Ce mardi, Ali Bongo Ondimba présidera son tout premier conseil des ministres de l'année, sitôt après ce rituel de prestation de serment du gouvernement nouvellement formé. Libreville, Ismaël Obiangze pour la Voix de l'Amérique.
Élections en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle de la RDC examine aujourd'hui le recours contestant les résultats de la présidentielle du 30 décembre, introduit par l'opposant Martin Fayulu, qui espère ainsi rétablir la vérité des urnes. Les précisions avec Irène Herman Umbo.
Selon Baudouin Mouerou, attaché de presse au cabinet du président de la Cour constitutionnelle congolaise, l'examen du recours de Martin Fayulu débutera à partir de 8h30 GMT. Il précise que les audiences devraient être publiques et radio-télévisées. Monsieur Fayulu conteste les résultats provisoires publiés par la CENI qui a proclamé Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle avec 38,57% des voix, le créditant lui de la deuxième place avec 34,8% des suffrages. Il dénonce un putsch électoral du président sortant Joseph Kabila avec la complicité de Monsieur Tshisekedi et revendique la victoire avec 61% des voix. Ce que nous attendons de la Cour constitutionnelle, c'est le rétablissement de la vérité des urnes, a déclaré hier Albert Fabrice Pouella, l'un des avocats de M. Fayulu. L'Église catholique avait mis en doute le résultat annoncé par la CENI. La SADC, de son côté, a suggéré dimanche un recomptage qui permettrait de rassurer tout le monde, une idée soutenue par le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Si ce recomptage est une décision de la Cour constitutionnelle, l'UDPS l'acceptera, mais nous n'entendons pas que ce comptage soit imposé par des États étrangers, a répondu Vili Chimanga, porte-parole de Félix Tshisekedi.
Ouganda, la Cour suprême ougandaise a débuté ce mardi l'examen d'une requête contestant la suppression de la limite d'âge pour la présidence, une disposition adoptée fin 2017 et permettant au président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 de se représenter en 2021. L'examen devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine et la Cour devrait mettre sa décision en délibéré à plusieurs semaines.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe maintenant, au Zimbabwe, la police a tiré des gaz lacrymogènes ce mardi dans la ville de Bulawayo, dans le sud du pays, pour disperser des manifestants au deuxième jour d'une grève générale contre le doublement des prix de l'essence sur fond de pénurie depuis des mois des denrées de première nécessité. La veille lundi, des manifestations à Harare, Bulawayo, deuxième ville du pays, avaient dégénéré et provoqué des pertes de vie, selon le ministre de la Sécurité Owen Nkoubé, qui n'a pas fourni de bilan chiffré. Selon des ONG, la police a tiré à balles réelles contre des manifestants. Toujours concernant l'Afrique australe, dans l'extrême nord du Mozambique, une dizaine de civils ont été tués en une semaine dans des attaques attribuées aux islamistes. Le point avec Raïssa Girondin.
Quatre passagers d'un véhicule ont été tués samedi et quatre autres blessés alors qu'ils circulaient près de Manila, non loin de la ville de Mocimbo da Praia. Le 6 janvier, sept personnes ont été assassinées dans des circonstances similaires à Ulumbi. Leur bus a été intercepté par un groupe d'hommes armés qui ont incendié le véhicule et pris la fuite. Une autre personne a été assassinée et découpée en morceaux près de Nailoa. Depuis plus d'un an, un groupe connu sous le nom de Shabab, qui signifie « jeune » en arabe, multiplie les attaques contre les villages de la province de Cabo Delgado. Plus d'une centaine de civils ont été tués et des milliers contraints de quitter leur maison. Le président Philippe Nyusi a réitéré sa volonté de neutraliser ces islamistes. Près de 200 personnes soupçonnées d'appartenir à ce groupe sont jugées actuellement à Pemba, chef-lieu de la province. Cette rébellion inquiète Maputo et les groupes pétroliers qui ont commencé à s'installer dans la région pour exploiter de grands gisements de gaz offshore.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, plus de 6000 habitants de la région de Yogo dans le centre nord du pays vivent désormais dans des camps de déplacés. Il s'agit essentiellement de femmes et d'enfants de l'ethnie Peul rescapés de la tuerie du 1er janvier qui a coûté la vie à 49 personnes. Notre correspondant Ouagadou Lamine Traoré s'est rendu sur le site d'accueil de Borsa Logo.
Nous sommes à Barsalogo, à 65 km de Yirgu, dans le centre nord. Une centaine de tentes, toutes blanches, dressées. Au moins 1000 déplacés, des peuls, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui ont quitté la région de Yirgu pour se réfugier ici. Le 1er janvier, après une attaque armée, les peuls ont été ciblés par des villageois Mossi, aidés par des membres de leur groupe d'autodéfense. Reynato Diallo, une déplacée, s'y rappelle.
Les Korlouego sont venus incendier nos campements. Nous n'étions pas au courant. Ils ont tué nos hommes. Il ne reste que nos poules. Ils ont incendié nos cases et nos aliments. Ils ne cherchaient à tuer que des peuples.
Dans ce camp, un centre de santé, une équipe de psychologues, des ONG et bien sûr des agents de sécurité. Mais ici, tout n'est pas au point. Alimata Diko, déplacé.
Ici, nous nous débrouillons. On trouve à manger, même si cela n'est pas très régulier. J'ai des enfants, j'ai un qui est malade. Je l'ai amené au centre de santé, mais jusque-là, ça ne va pas.
Bassirou Zagré est l'un des deux responsables du site. Il reconnaît que tout n'est pas encore en place et cela rend l'assistance difficile.
Il manque de l'éclairage sur ce site, des matériels de cuisine, les marmites, les plats, les couvertures, les nattes. On en a reçu, mais si on gagne encore, ça va nous aider.
Les agents de santé sont débordés. Certains de ces déplacés ont erré des jours dans la brousse avant d'arriver ici. Beaucoup ont vécu des scènes d'horreur perpétrées par les Korlouego. Pour Dr Claude Kouderi, responsable santé sur le site, la plupart des déplacés ont besoin d'une véritable prise en charge psychologique.
Lorsque vous avez assisté à une scène où tu vois un proche qu'on t'enlève brutalement dans certaines conditions, ça ne peut que sur le plan psychologique déranger. Vraiment, sur le plan psychologique, là, il y a vraiment une atteinte. Et il y a des cas vraiment qui nécessitent une prise en charge médicale.
Deux semaines après ces violences qui ont fait près de 50 morts, essentiellement des peuls, aucune arrestation n'a été opérée. Les Korlouego règnent toujours en maître à Yirgu. Dans ces conditions, un éventuel retour à Yirgu est-il possible?
Non, et non, et non.
Yacouba Diande est le porte-parole de ces déplacés à Barsalogo.
Le même problème qui nous a chassés à venir ici, le même problème est toujours là-bas. On ne peut pas retourner comme ça et sans que la situation se change. Les gens qui nous assassinent là, ils sont toujours là-bas avec leurs figies, avec leurs races, avec leurs coufoufes. Ils sont très nombreux.
Le centre de Barsalogo est l'un des 4 sites déployés pour les déplacés de la tuerie de Yirgu. Selon le gouvernement, plus de 6000 personnes vivent dans ces camps. Lamine Traoré, Barsalogo, VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Restez à l'écoute de VOA Afrique.